Maintenant, Yannick Vicaire, donc représentant chargé de mission au RES sur les perturbateurs endocriniens, puis vice-président de l'association IL, qui travaille énormément sur ce dossier et qui va nous parler de ces progrès réglementaires dont on attend une orientation importante, puisqu'on parlait tout à l'heure, on parle beaucoup d'interface avec les industriels, mais je pense qu'il faut aussi pousser la vertu avec des règlements bien adaptés. Tout à l'heure, dans les interventions, il y avait une chose que j'avais vraiment notée en étant représentant des usagers de la santé, qui me parlait beaucoup, c'était développer le capital fonctionnel. Cette intervention était intéressante, je trouve, parce qu'on s'intéresse aux résistants et pas toujours aux malades. Et là, c'est intéressant de voir comment on peut un changement de paradigme dans la médecine, hein, la conception du raisonnement médical, améliorer peut-être au niveau de la prévention en regardant ce qui fonctionne bien. Merci Yannick.
Ok. Tu étais peut-être un peu vite en parlant de progrès réglementaires. Je vais vous parler pour l'instant du processus réglementaire. On verra au terme de ce processus si c'est un progrès. Parce que pour l'instant, le progrès, c'est celui qu'on a fait en France avec le bisphénol. Certaines opinions scientifiques ou d'agences scientifiques. Le RES travaille à l'échelle européenne aussi et au sein d'une coalition qui, depuis peu, a décidé de s'intituler EDC Free Europe, une Europe sans PE, on pourrait traduire ça comme ça. On a à peu près une vingtaine d'organisations. C'est aussi un site internet qui invite certaines parties prenantes, les associations particulièrement, à venir nous rejoindre et rejoindre la plateforme de revendication qu'on a vis-à-vis de la réglementation européenne. Alors, je vais essayer d'aller vite. Malheureusement, en termes de construction de la réglementation, je pense que ce sera à peine moins compliqué que les mécanismes de l'épigénétique. Donc, parce qu'effectivement, on n'a pas une réglementation qui va traiter des perturbateurs endocriniens en tant que tels. On a une stratégie horizontale qui va, à l'échelle communautaire, toucher un certain nombre de lois et de textes de loi, soit les compléter, soit les réviser si nécessaire vis-à-vis de la question des perturbations, de la perturbation endocrinienne. Alors le premier, bien sûr, il était mentionné tout à l'heure, c'est REACH, donc je ne reviens pas sur ce qu'est REACH, c'est le régime général de gestion de réglementation des produits chimiques. Il a un régime d'autorisation. Un régime d'autorisation, c'est un régime qui dit que tout est interdit sauf ce qui est autorisé. Donc ça définit des usages autorisés en fonction de données, et les interdictions reposent sur, elles sont basées sur le danger intrinsèque des substances. En gros, nous avons trois grandes familles de substances qui sont interdites, autorisées. Ce sont les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, hein, ces fameux CMR. La grande famille des persistants, qu'on note PBT pour les persistants dont on a prouvé la toxicité, ou VPVB, les persistants dont on n'a pas prouvé la toxicité, mais qui sont tellement bien accrochés à nos graisses corporelles que ça nous embête de les savoir là. Voilà. Et il y a une troisième catégorie, qui est la catégorie fourre-tout, dans laquelle se trouvent aujourd'hui les perturbateurs endocriniens, et dont on aimerait bien la sortir, parce que c'est une catégorie qui réclame que chaque substance soit regardée au cas par cas, avec un niveau de preuve très élevé. Je vais essayer de parler vite, mais il faut que je maintienne une élocution audible. On retrouve la même philosophie dans la révision des règlements biocides et pesticides. Hein, les perturbateurs endocriniens sont censés, donc sont reconnus comme molécules, substances néfastes qui ne doivent soit ne pas faire l'objet d'un renouvellement d'autorisation, soit d'aucune nouvelle autorisation. Or, c'est très intéressant là parce que c'est ces deux règlements qui fixent d'ici la fin de l'année l'échéance du travail de définition réglementaire d'un perturbateur endocrinien. Parce que pour l'instant, on a des lois, mais on n'a nulle part quelque chose qui nous définit juridiquement ce qu'est un perturbateur endocrinien. D'autres lois seront touchées. Les cosmétiques prévoient aussi d'exclure les perturbateurs endocriniens d'ici 2015. Et on s'attend, lorsque la Commission européenne aura effectué sa révision de la stratégie européenne, à ce qu'il y ait aussi des dispositions dans la directive cadre sur l'eau. Donc là, on parle plus en termes de rejet et d'élimination des rejets, donc en aval. REACH doit être aussi révisé, plus ou moins. Et puis, il y a tout un tas de réglementations sectorielles qui touchent jouets, contacts alimentaires, dispositifs médicaux, etc. Alors, ce matin, vous avez vu de manière un petit peu différente cette diapositive présentée par Gilles, qui vous donnait les deux définitions des perturbateurs endocriniens, enfin deux définitions possibles des perturbateurs endocriniens. La question, c'est est-ce que une définition juridique, une définition réglementaire doit avoir les mêmes objectifs qu'une définition scientifique ? Et là, on voit que, très clairement, derrière une définition réglementaire, il y a aussi la question d'une volonté politique et la question de comment on gère l'incertitude, dans quel sens, au bénéfice de qui. Donc, c'est éminemment politique. Alors, j'ai repris le même diapo que Gilles ce matin, mais j'ai un petit peu changé son propos qui, lui, donc ce matin, était de savoir voilà, quel était l'outil pour la science qui était le plus fiable. Moi, je pose la question pour la réglementation, pour nos besoins. Qu'est-ce qu'on a, en gros, comme scénario ? Alors, c'est très caricatural comme scénario. D'un côté, une définition, si on traduit littéralement ce que nous donne l'OMS et qui reste la définition qui fait référence aujourd'hui, on a ces trois niveaux de preuves qu'il faut franchir pour pouvoir définir un perturbateur endocrinien. Mode d'action, effet néfaste et causalité entre les deux. Donc, quel est le risque si on applique ça strictement en réglementation ? C'est que on risque de se retrouver avec très peu de substances aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, qui répondent à ces critères-là. Et en fait, on risque d'avoir même que ça nous donne des substances qui sont déjà interdites. Donc, en gros, on aurait fait tout ça, tout cet effort réglementaire, toutes ces discussions pour rien du tout. De l'autre côté, oui, il y a probablement une chance que les impacts sur certaines activités économiques, en particulier sur certains produits agrochimiques, mais pas seulement, puissent donc qui aient donc de tels impacts. Mais est-ce que c'est difficile à dire en vérité, parce que là on en est, on essaye de faire rentrer, de définir une substance et de la faire rentrer dans un système réglementaire. Mais ce système réglementaire prévoit à tous ces échelons tout un tas d'exemptions et de considérations. Pour, en cas, par exemple, de bénéfices pour la société supérieure au risque, pour dire, finalement, ce médicament, même si ces résidus dans l'environnement peuvent poser problème, nous apporte suffisamment de bénéfices pour qu'on considère qu'on ne va pas lui couper la tête comme ça d'un seul coup. Donc, pourquoi, finalement, vouloir mettre des barrières à la définition d'un perturbateur endocrinien avant ces différents niveaux de filtres réglementaires qui sont en général plutôt en faveur, je dirais, de la plus grande présomption d'innocence ou d'utilité, en tout cas sociale, pour les produits industriels. Donc le risque d'injustice réglementaire est faible. Alors, on a, je dirais, les travaux de l'Union européenne ont commencé avec deux rapports. Un rapport de référence qui est le rapport qu'on appelle souvent rapport Kortenkamp, parce qu'il a été dirigé par Andreas Kortenkamp, état de l'art de l'évaluation des perturbateurs endocriniens. Moi, je pense qu'il faut toujours lui adosser l'autre rapport qu'a fait le même professeur Kortenkamp, qui est l'état de l'art sur la toxicité des mélanges de substances. Parce que c'est deux questions qui vont, quoi qu'on en dise, ensemble. On aura la chance d'ailleurs le 26 avril prochain d'accueillir le professeur Kortenkamp, non pas dans ses murs, mais au Sénat. Voilà, l'invitation du réseau Environnement Santé, et je pense que ce sera l'occasion de revenir sur ces questions. On a le processus officiel, donc depuis le rapport, a pris la forme d'un groupe de parties prenantes qui est, je dirais, des spécialistes, des experts envoyés par les États membres, des industriels, des ONG. Et bien sûr, les institutions européennes comme observateurs. On a un rapport qui est tout frais, qui date de la semaine dernière, qui est en ligne et qui propose voilà, un certain nombre de, je ne sais pas si on peut appeler ça des conclusions, mais de recommandations. Parce que il est clair que au sein de ces groupes de travail, il n'y a pas eu forcément consensus sur toutes les questions. Aujourd'hui, il y a un souhait de conserver la définition OMS comme la définition de travail, mais néanmoins, en suivant les recommandations d'ailleurs du rapport Kortenkamp, l'idée qu'il faut essayer de bien peser et de faire une entrée parallèle entre l'analyse des preuves des effets néfastes et du mode d'action pour désigner les perturbateurs endocriniens de manière un peu plus ouverte, un peu plus large que du « ou bien », on va dire, que du « et ». Voilà. Et puis un certain nombre de sites d'éléments que l'industrie aurait bien voulu voir retenus, qui ont été pour l'instant sortis de la phase d'identification pour dire, bon, ça, c'est des éléments qu'on peut prendre en compte peut-être plus tard dans la caractérisation pour prioriser quelles substances on veut faire passer dans le système réglementaire en premier. Et puis, il y a en tout cas une reconnaissance qui, là, par contre, a fait plutôt consensus que les tests OCDE aujourd'hui sont largement insuffisants pour permettre d'identifier les perturbateurs endocriniens parmi les produits chimiques existants. En particulier, du point de vue d'ailleurs de l'exposition in utero et du développement des effets latents sur le long d'une vie. Comme dans toutes les histoires, il y a une bonne fée, il y a une fée carabosse qui sont penchées sur le dossier. Alors c'est moi qui attribue, hein, c'est l'opinion du reste, on va dire. La bonne fée, c'est le Parlement européen qui a réaffirmé les principes politiques qui doivent guider l'action réglementaire. Parce que on voit bien qu'à un moment donné, il y a une tentation énorme de certains milieux industriels de vouloir, puisque le cadre réglementaire est plus ou moins fixé déjà pour les produits biocides, les produits pesticides et pour les produits chimiques, de dire puisque ce qui nous attend, c'est le coup près, alors il faut agir en amont et définir le plus strictement possible ce qu'est un perturbateur endocrinien, parce qu'on en aura moins qui passeront à l'échafaud. Voilà. Bon, donc la résolution du Parlement européen revient sur un certain nombre de choses et avant tout sur cet objectif de réduction des expositions. Si on ne fait pas cet exercice-là pour réduire l'exposition des populations, on ne fait rien, ça ne sert à rien. Et puis, alors, la fée Carabosse, c'est l'EFSA. Alors, pourquoi je l'attribue ce rôle-là ? Parce qu'il se trouve que l'EFSA n'avait pas de rôle dans ce advisory group et c'est la DG Sanko qui, soudain, au mois de septembre, a décidé de pousser l'EFSA dans la fosse aux lions et de lui demander une position qui est sortie là aussi il y a quelques semaines. Et une position qui cherche à créer une frontière réglementaire artificielle entre des substances qui seraient endocrinologiquement actives et d'autres qui seraient des perturbateurs endocriniens. Non pas que c'est pas intéressant d'un point de vue aussi scientifique de distinguer ces deux choses-là, mais est-ce que ça nous aide d'un point de vue réglementaire ? Et quand on lit l'opinion de l'EFSA dans son entier, on s'aperçoit qu'on a plus de questions à la fin qu'on en avait au début. Et puis, il y a des agences nationales qui se sont positionnées, malheureusement, pas toujours de la meilleure façon. Voilà, nous, comment on voit les choses. On voudrait, dans l'idéal, qu'on calque finalement la classification CMR, qu'on ait trois catégories de PE, des avérés, des fortement suspectés, sur lesquels on pourrait directement aujourd'hui faire appliquer la réglementation dans le sens du contrôle, de la substitution. Et puis, une catégorie 3 qui viserait des PE sur lesquels moins bien renseignés, mais néanmoins sur lesquels, on va dire, on ne va pas les laisser comme ça dans la nature sans rien faire. On va juste réclamer plus de tests, plus d'informations pour pouvoir avoir quand même une action de vigilance sur ces PE. D'autant plus qu'il se trouve que cette semaine ou il y a quelques jours vient d'entrer en vigueur le fait que les cosmétiques ne pourront plus tester de produits chimiques sur des animaux. Et que donc, si on n'a pas un moyen de pouvoir tenir compte de certaines données in vitro, in silico, dans la catégorie PE, on va se retrouver avec là un grave danger réglementaire, une grave lacune. Voilà. je vais conclure en disant que c'est une façon de faire les choses. Et ce qu'on attend, nous, maintenant que la France s'est lancée dans cette stratégie nationale perturbateur endocrinien, c'est qu'on ne regarde pas les choses que de ce point de vue réglementaire qui, finalement, incombe avant tout à l'Union européenne, mais qu'on essaie de regarder dans l'autre sens. Comment on va emmener l'industrie chimique, et c'est ce qui était évoqué tout à l'heure par le président orateur, comment on va amener l'industrie chimique à changer de logiciel, elle aussi, et à prendre les problèmes par l'autre bout, c'est-à-dire comment je conçois des produits chimiques qui, dès le départ, pourront ne pas poser ce problème de perturbation endocrinienne. Il y a une méthodologie qui a été mise en place, une méthodologie d'ailleurs évolutive, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui seront à apprendre le long du chemin, mais une méthodologie qui a été mise en place par des laboratoires américains alliant des endocrinologues et des chimistes de la chimie verte, dont on ne voit pas le début du commencement du développement dans ce pays. Donc ça, c'est aussi l'objet d'un colloque qu'on fera à l'automne, le 18 octobre, pour essayer de voir comment on peut renverser la vapeur et voir cette chose par l'autre bout. Voilà. Et à la fin de ce processus réglementaire, nous, qu'est-ce qui nous intéresse finalement en tant que partie prenante représentant le public et la défense de la santé et de l'environnement? Ce qui nous intéresse, c'est pas en soi les technicités de la réglementation et de la définition réglementaire. Ce qui intéresse, c'est combien des 870 perturbateurs endocriniens, alors je prends cette liste-là, parce que voilà, c'est une liste exhaustive. Donc, les 870 perturbateurs endocriniens référencés par le site TEDx, par exemple, combien de ceux-ci seront concernés par la réglementation? Si c'est un ou deux, je pense qu'on peut tous rentrer chez nous et pour se passer à autre chose. Si, bon, voilà, ça sera à l'aune de ce résultat-là qu'on pourra juger de l'efficacité de l'action réglementaire. Et voilà ce que dit TEDx, c'est une citation que j'ai pris de leur site. Ils mettent en garde contre justement une définition qui serait trop restreinte, qui ne tiendrait pas compte de l'évolution de la science, et ils disent que définir maintenant de manière large la perturbation endocrinienne est un don que nous devons laisser aux générations futures, pour qui les mots perturbation endocrinienne seront malheureusement aussi communs que le mot cancer l'est pour nous aujourd'hui. Je vous remercie.